Bonjour, vous écoutez le What the F podcast, je suis Fania Noël, bienvenue.
So what the hell is your name?
Pour ce deuxième épisode, on va parler de tenir les deux bouts. Il n'y aura que deux questions, parce que c'est deux questions un peu complexes, donc je vais passer beaucoup plus de temps que sur les questions de l'épisode. Épisode numéro 1, une première question sur les violences policières et ce qui s'est passé à Champigny. Une autre sur le fait de comment on lutte ici contre le racisme et spécifiquement la négrophobie et en même temps de soutenir les luttes et anticolonialistes et de ce que la France fait dans les pays des Suds.
J'ai débarqué en Seine-Saint-Denis et j'ai découvert du jour au lendemain qu'effectivement j'étais blanc de peau face à des élèves qui étaient tous d'origine extra-européenne. J'ai eu aucun problème par rapport à ça, mais j'ai découvert effectivement la question raciale et ethnique à ce moment-là.
Mais ça, c'est tout le privilège d'attendre 30 ans pour découvrir la question raciale.
Mais j'en suis...
C'est ça le privilège.
Mais j'en suis d'accord, on est tous d'accord. Mais je... Tout ça pour dire que pourquoi ne pas parler de toutes ces questions-là ? Il n'y a aucune gêne.
Mais parce que justement, on en parle, mais ça dépend qui en parle. Vous en parlez puisque vous êtes affecté. Vous avez découvert quelque chose quand vous êtes arrivé en Seine-Saint-Denis et là, ça devient un problème. Ça devient un débat public.
Oui,
ben. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens qui sont affectés, c'est-à-dire si je prends mon cas depuis l'âge de 1 an, voilà, et que je dis il y a un problème, je me sens noire, je suis racialisée. Pourquoi il faut que j'attende vos 30 ans et votre arrivée en Seine-Saint-Denis pour qu'on puisse avoir un débat public ?
On commence par la première question. Comment se positionner dans les moments comme aujourd'hui, en tant que militant contre les violences policières, quand d'un côté tu es une femme policière, bien que tu saches pertinemment qu'un policier reste un policier, indépendamment de la race ou du genre, qui se fait frapper à Champigny ? Et qu'il y a unanimité pour condamner les actes, mais derrière, il y a unanimité également pour mettre au même niveau les violences policières et celles commises dans ce cadre-là. Je pense qu'en tant que militante, ce qu'on veut, c'est détruire les structures et non les personnes. Déjà, ça, je pense que c'est un fait extrêmement important à rappeler. La police en tant que telle est une institution violente, une institution de domination et une institution qui protège les intérêts des classes dominantes. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important de le rappeler. Donc cette structure, l'institution de la police n'est pas réformable parce que la police n'existe que pour contrôler les classes dangereuses. Et quand on parle de classes dangereuses, on parle de classes que le pouvoir hégémonique, qu'il soit blanc, colonialiste, capitaliste, hétéropatriarcal, considère là seulement pour être exploité et pour maintenir dans un état d'exploitation. Ça, c'était la première considération. Et il faut regarder également quel discours rend possible ce parallèle, alors que les violences policières dans un pays comme la France, mais partout, ne sont pas condamnées par la force publique, ni par le discours médiatique, ni par le discours politique, ni par les institutions. Et au contraire, on leur trouve des excuses pour pourquoi il y a des morts dans les mains de la police, pourquoi il y a des personnes qui sont blessées. On leur trouve des raisons. Donc ces violences, elles sont légitimées explicitement ou implicitement par l'État. Donc de la même façon que dans les cas où il y a des agressions contre les femmes, lorsque ces agressions contre les femmes sont commises par des Dominique Strauss-Kahn, des ministres, des Polanski, des personnes en situation de pouvoir, etc. On a une réponse un peu mollassonne, oui, mais peut-être, on ne sait pas si c'est ça, si c'est ça. Là, il s'agit moins de défendre la victime et de son droit à ne pas être attaquée et ne pas être violentée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, même si je précise que les fonctions... que être dans la police, ça comporte des risques, vu que les policiers sont armés. Donc c'est quand même une fonction qui est pas... C'est pas comme être facteur, par exemple. Qu'il est vraiment possible d'expliquer qu'il y a un antagonisme qui est nourri, parce que la police, en France, est là pour contrôler dans l'espace public l'accès, la présence, le comportement de certaines populations. On peut frapper des gens dans des fourgons de police, ou on peut contrôler systématiquement la même personne, alors que ce sont des policiers, on va qui connaissent les gens de ce quartier-là, donc ils savent très bien qui est qui, mais on va les contrôler systématiquement pour maintenir le rappel à l'ordre. Le rappel à l'ordre, et le rappel à l'ordre doit se faire sur les corps. Le rappel à l'ordre doit dire, ben vous là, quand vous êtes dans l'espace public, et on parle spécifiquement des hommes de banlieue noire et arabe, quand vous êtes dans l'espace public, sachez que vos allées et venues sont contrôlées, suspectées, et que votre personne est suspectée d'être contrevenante à l'ordre public, parce que ce que vous êtes, c'est contrevenant à l'ordre public, et qu'on ne veut pas de vous dans cet espace public, et on s'assure qu'on ne veut pas de vous dans cet espace public, mais on ne veut pas de vous non plus dans l'espace privé que peut être l'entreprise, vu que vous êtes discriminé à l'embauche, et on ne veut pas non plus que vous ayez d'espace personnel, vu que vous êtes aussi discriminé au logement. Donc ça fait partie de tout un système qui s'assure que la police rappelle à l'ordre la place et la légitimité de la place de certains dans l'espace public. Donc comme on fait pour tenir les debout, on peut rappeler que quoi qu'il arrive, on reste pour l'abolition, enfin, je ne veux pas mettre des propos dans la bouche, enfin, dans les doigts de la personne qui a tapé cette question. Pour ma part, je parlais pour ma part, qu'on reste pour l'abolition de la police, que la police ne peut pas être réformée. La police est une institution de contrôle, donc ce n'est pas réformable. Donc ça, c'est pour ma part. Ce que fait la police dans l'exercice de ses fonctions et comment elle supporte les structures de domination et le système, et des actes de violence qui pourraient être commis contre celle-ci. Il n'y a aucun parallèle, aucune toute chose égale par ailleurs, et ça ne justifie pas non plus. C'est même pas que ça ne justifie pas non plus. Ça ne peut pas être utilisé comme justification de « Oh, vous vous plaignez de les violences policières, mais regardez comment vous traitez les policiers. » Non, on ne peut pas comparer les actes des individus face à une institution. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas comparable. Ça n'a rien à voir. Et en plus, on a pu voir dans les discours qui ont suivi le cas de Champigny que la réponse judiciaire, la réponse de l'ensemble du champ politique, médiatique, même associatif à ces comportements a été assez unanime. C'est-à-dire que même la réponse de militants contre les violences policières ont tout de suite dit non, c'est pas correct, etc. Donc il n'y a vraiment aucun parallèle à faire, et je pense que justement retirer cette réflexion, extirper cette réflexion, refuser de rentrer dans ce genre de conversations qui sont pour moi des distractions de la conversation centrale, qui est à quoi sert la police? À quoi sert la police? Et on doit se rappeler de ça. La police ne sert pas à protéger les individus et ne sert surtout pas à protéger les personnes pauvres, racisées, pauvres et ou racisés, les femmes, etc. La police sert à protéger les intérêts des classes dominantes. Voilà à quoi ça sert la police, à protéger les biens de la bourgeoisie. Et il faut refuser, enfin, quand je dis refuser, c'est pas à dire on ne veut pas en parler, refuser l'imposition de problématiques qu'on fait avec des parallèles de ce genre entre des faits divers et une structure qui a prouvé par son histoire, comment elle a été créée, par son utilisation dans l'histoire, qu'elle sert des intérêts qui ne sont pas ceux de la population. Et quand je parle de la population, je parle de la population en général, la population à laquelle je suis partie, c'est-à-dire des personnes noires, les personnes racisées en France, mais aussi la population des personnes blanches, pauvres, précaires, etc., comme on a vu aussi comment la police a été utilisée et est utilisée dans les cas des personnes migrantes à Notre-Dame-des-Landes, dans quand il y a des manifestations, des blocages d'usines, etc. Donc, elle n'est pas utilisée pour supporter les mobilisations de la population contre et les résistances de la population contre l'État. Bien au contraire. Alors, la deuxième question a été posée par un homme qui est nord-africain et communiste et qui se définit aussi par comme pan-africain, qui demande comment articuler nos luttes aussi plurielles et antagonistes ici en Occident avec celles de nos pays appartenant au Sud global. Le podcast, tu parlais de contradictions et je trouve celle-là de plus en plus difficile à vivre. Comment militer contre le racisme quand la suprématie blanche régule les rapports de force au niveau local et global? Comment condamner la violence policière quand nos pays sont le théâtre d'interventions militaires pour le pillage des matières premières? En bref, comment militer autrement que pour sa condition de personne racisée en diaspora? Déjà, je pense que c'est important de dire que le racisme à l'intérieur, que le racisme organisé par l'État en France, le racisme d'État, nourrit le néocolonialisme, et le néocolonialisme justifie également le racisme, que ça ne part pas en vase clos, et qu'il n'y a aucun scénario qui ferait qu'on vive, nous, en France, en tant que noirs ou racisés, en tant que personnes non blanches, des vies paisibles sans racisme, alors que le néocolonialisme en France, le néocolonialisme de la France perdurait à l'étranger, et on va parler spécifiquement en Afrique. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est un scénario qui n'existe pas. Parce que déjà, dans le contrôle de la migration, ça permet de faire ça. Ça permet de tracer des lignes de qui a le droit à être dans la communauté nationale des citoyens français. Et ensuite, dans les citoyens français, on trace la ligne entre les personnes qui sont les pures souches, là, et les autres, là, les nous, les descendants d'eux, de 2, 3, 4, 20e génération, mais aussi des personnes qui viennent de ce qu'on appelle, guillemets, les dom-toms, qui sont vus comme pas la pure laine de la France. Donc ça, c'est vraiment important, et je pense que c'est une grave erreur politique de croire qu'on peut lutter contre le racisme. Moi, je parle spécifiquement de ce que je connais, de la négrophobie, sans avoir une approche qui prend en compte les politiques néocolonialistes dans les pays du sud global. Donc voilà. Ensuite, je sais que la question n'a été pas posée par une personne noire, mais pour parler des noirs spécifiquement, les noirs sont souvent renvoyés à... Non, pas souvent. Les noirs sont toujours renvoyés, tous les noirs, à l'Afrique. À l'imaginaire, l'Afrique, etc. On est renvoyé à ça. Et ces imaginaires répondent à des situations très concrètes d'exploitation, à des situations matérielles. Et donc, on peut pas vivre en disant « Oh, on va juste se dissocier de l'Afrique, dissocions-nous de l'Afrique, investissons à 1000% le fait qu'on soit des Noirs de France, qu'on n'est pas du tout africains, qu'on est des Noirs français, etc., qu'on veut rien avoir avec ça, avec l'Afrique, dans mon cas avec Haïti, mais même en tant qu'haïtienne, moi je me considère comme africaine aussi, donc ça me pose pas de problème. » On va être traité comme des Français, comme les autres. Et ce chemin-là, là, d'être traité comme des Français, comme les autres, pour moi, c'est un cul-de-sac. Parce que ce qu'on réclame, c'est pas l'égalité pour... on réclame l'égalité en France, mais il faut pas que cette demande d'égalité repose sur des inégalités entre nous, les personnes qui vivent en France ayant la citoyenneté française, et ceux et celles qui vivent en France sans citoyenneté française, mais encore plus grave, entre ceux et celles qui vivent dans le monde sans vivre dans des pays occidentaux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est s'organiser collectivement. Moi, je suis vraiment pas une grande fan des discours de retour en Afrique comme solution miracle, et je dis ça vraiment... Les personnes qui font ça, je suis pas contre. Je dis juste que je suis pas une grande fan de ça. Et pour plusieurs raisons. Un, les acquis de l'expérience quand je vois comment la diaspora se comporte, qu'on retourne dans nos pays, des pays de nos parents, dans nos pays, pendant les vacances, moi j'ai vraiment honte. Ah mais j'ai une honte absolue, j'ai vraiment honte. C'est dégoûtant, c'est répugnant, c'est vraiment cette façon d'interagir, d'avoir un rapport quasi c'est pas parce que tes parents, tu sais que t'es en plus, je pense que c'est encore plus répugnant pour les personnes de notre génération, c'est-à-dire pas de nos parents mais nous, parce qu'on n'est pas les personnes qui envoient le plus de Western Union, Monogram, etc., les personnes qu'on appelle quand il y a un problème, les personnes qui sont parties, qui ont abandonné quelque chose. Donc, on n'est pas cette génération-là. Donc, même si on aide notre famille ici et que l'aide qu'on apporte à notre famille en France, ben, elle se retrouve parfois quelque part à traverser la mer, on n'est pas les personnes qui font les tontines, qui organisent, etc. Et il y a une façon de se comporter, ouais, vas-y, je suis au bled, etc. Et là, c'est en mode, je suis en roi du monde, je parle mal aux gens, je pense que les gens, ils sont là pour être à mon service. Une vieille mentalité, là, de néocolon dégueulasse, mais répugnante, qui fait vraiment, vraiment honte. Et je comprends très bien que, dans les pays, en Occident, en Europe, aux États-Unis, on est traité comme de la merde. Mais on peut pas voir ces espaces comme des espaces pour réparer la merde qu'on nous fait subir en France. C'est pas nos pays d'origine, c'est pas les gens dans nos pays d'origine qui nous font subir cette merde. Donc on peut pas juste dire, bah comme en France, je peux pas être traité avec dignité, bah je vais aller réparer tout ça là, tout ce vide là d'être traité comme de la merde parce que je sais que mon argent converti en euros me permet d'acheter plus de choses et d'acheter un statut social de diaspora. Donc moi je suis assez mal à l'aise aussi avec tous les discours de à chaque fois que j'ai au bled et tous les gens ils essayent de me taxer de l'argent, nanani, nanana, nanani, ben c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Tu peux pas venir en mode faire le mec qui pèse et après te plaindre que les gens ils essaient de te gratter 200 dollars. Enfin, je parle en dollars américains parce qu'en Haïti, on a une monnaie locale, mais le dollar est la monnaie étrangère qui s'échange le plus. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc, ça, c'est la première raison qui est une raison vraiment de. Il y a un rapport bizarre d'une partie, et je dis une partie, mais une majorité de personnes ici de la diaspora, de notre génération, je parle vraiment de la génération de personnes qui ont grandi en France, parce que je ne considère pas pareil la génération de mes parents, par exemple, parce que mon père, il a grandi, il est devenu adulte en France, il s'est tué à la tâche de ouf, il a construit sa maison là-bas, l'argent qu'il a gagné, il y en a une grosse partie qui ont servi à soutenir, et quand on dit soutenir, c'est vraiment soutenir toute une famille, ce que moi je n'ai pas fait. Moi ça m'arrive d'envoyer des Western Union à mes cousins, tac tac tac, mais moi c'est pas, il n'y a pas 40% de mon salaire qui part en aide substantielle aux personnes en Haïti qui les aident à monter leur petite entreprise, etc. Donc je parle vraiment du rapport de nous là qui avons la citoyenneté française, qui ont grandi en France, qui avons des diplômes, qui avons un travail, la façon dont on se comporte qu'on va au bled, la façon dont on se comporte dans ce rapport de d'aller régler nos névroses que la France nous a donné là, de je t'aime pas dans nos pays d'origine. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est ça efface les mobilisations locales et des personnes sur place, et ça nous fait genre je vais aller en Afrique et ou en Haïti ou dans la Caraïbe et je vais aller m'investir pour aller pour la lutte, etc. Alors que vraiment, déjà, est-ce qu'on peut commencer à s'investir ici, de voir comment on peut améliorer la vie des personnes racisées, noires, etc. Qu'est-ce qu'on peut gagner ici avant de croire que du haut de notre petite expérience militante, on va aller dans des pays où il y a une jeunesse, où il y a des personnes qui s'organisent, où il y a des personnes qui sont là, qui font les choses et qui auraient besoin de notre présence physique là pour leur apporter des choses. Donc la plupart du temps, il y a des gens qui y vont, après ils reviennent. Oh, c'est déçu, nanani. Bah oui, l'Afrique nous attend pas pour vivre en fait. Les gens, ils font des choses, ils luttent à leur façon, ils ont des cadres qui sont pas les nôtres. Et il faut aussi qu'on accepte que même si on est à la marge, cette identité française qu'on nous propose, qui est monolithique, etc. Bon, on est un produit de ça. On est un produit aussi. On est un produit occidental, un produit de la marge occidentale, mais nous sommes un produit occidental. Il faut accepter que lorsqu'on va dans nos pays qui se trouvent dans les Sud, on va avec tout ça. Donc, il y a un énorme travail de ça pour comprendre la différence qu'il y a entre la solidarité. Qu'est-ce que c'est d'apporter de la solidarité politique et qu'est-ce que c'est de faire le sauveur, etc. Donc, moi, je pense que vraiment, il faut prendre notre responsabilité pour lutter depuis notre position de personnes qui ont la nationalité française contre les agissements de la France en Afrique, car ces agissements nous bénéficient. Même si on est à la marge, on bénéficie de l'exploitation du Sud global. Donc même à la marge, même en situation de précarité, de galère, etc., nous bénéficions de ça. Nous bénéficions de ça. Et il faut pouvoir reconnaître ça et de partir de ces positions de personnes, même à la marge, qui bénéficient de l'exploitation de continents entiers et surtout d'un continent en particulier qui est l'Afrique, vu. Et je pense que c'est important de faire le lien entre les luttes qui ont lieu dans nos pays d'origine et les luttes ici. Et c'est important de mobiliser ça. Moi, je sais que mon militantisme, il puise beaucoup de choses dans les luttes haïtiennes. Et c'est important de connaître ces histoires de lutte parce que ça explique aussi le rapport de nos parents, de nos familles à la politique, au militantisme, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui s'est passé dans leur jeunesse en termes de mobilisation. Et c'est important de connaître ça pour aussi faire des mouvements qui soient plus intergénérationnels, pour aussi essayer de voir comment on fait des ponts et comment on mobilise ces histoires sans pour autant passer, parce que moi je suis très, surtout pour les luttes noires, pour qu'on arrête de passer tout le temps par les États-Unis et l'histoire afro-américaine. Donc je pense que c'est important de mobiliser des luttes de nos pays d'origine, parce qu'ils ont souvent, surtout en France, lié avec la France. C'est-à-dire qu'ils disent quelque chose du rapport colonial, impérialiste de la France avec nos pays d'origine, qui explique aussi le rapport de la France en tant qu'État avec nous qui vivons en France, qui sommes citoyens français. Et il explique le rapport particulier que la France, elle n'a pas le même rapport aux Arabes en France, vu son histoire avec la colonisation en Algérie particulièrement, que avec les Noirs, au vu de son histoire esclavagiste, de son rapport avec le Cameroun, la Guadeloupe, la Martinique, tous les 10 dom-toms. Donc ça explique comment la gestion que la France fait, la gestion différenciée et le rapport un peu différencié dans le discours et les imaginaires racistes de la France par rapport aux communautés, qu'elles soient noires, arabes, asiatiques, en France. C'est assez important de mobiliser ça. Le panafricanisme est une réponse à ça. C'est une réponse à penser le « nous » ici, là, nous qui sommes ici, dans ce lieu, en France, qui sommes l'altérité, mais aussi le « là-bas ». Le deux rapports, de penser et accepter qu'on peut avoir des allégeances à nos pays d'origine, à l'histoire, à la valorisation, à quelque chose qui nous font tenir, parce que c'est difficile quand même en tant que, je parlais en tant que noire, de se sentir valorisée par l'histoire de la France, mais que puiser de la force dans les résistances qui ont lieu dans nos pays d'origine contre l'exploitation, contre le colonialisme, contre l'esclavagisme, ça donne des modèles solides et ça donne aussi des bases qui s'inscrivent dans l'histoire, qu'elle soit familiale ou communautaire, et spécifiquement sur pour les personnes noires. Il y a une lutte sur plusieurs niveaux, car on doit aussi penser l'exploitation et la violence entre les pays des Sud. De la façon comment nos frères et sœurs sont traités dans les autres pays des Sud, qui sont eux-mêmes exploités par l'Occident. Donc, on doit penser comment les pays, d'autres pays des Sud exploitent les pays d'Afrique subsaharienne et de la Caraïbe, comment ils exploitent les corps noirs, etc. Mais comment ces pays aussi sont exploités par l'Occident. Donc, ça fait des lectures extrêmement complexes des choses et des comment ça va être, des priorités différentes. Et je répète, moi, je vois pas d'autres réponse à ce défi que le panafricanisme. Et moi, je suis pour un panafricanisme, là, je parle vraiment pour les personnes noires. Pour une lutte contre la négrophobie qui s'inscrit dans un panafricanisme, dans de la solidarité et dans un panafricanisme de la globalité, qui parle des questions économiques, des questions politiques, des questions sociales, avec les conditions matérielles, comment ça affecte les gens, les structures, etc., la complicité des élites locales, l'organisation politique, tout ça, mais qui parle aussi des questions culturelles et d'identité, car on peut pas nier, on peut pas passer à côté du fait que ces questions sont importantes dans la communauté noire africaine, que ce soit sur le continent, ou dans la diaspora, ou dans la Caraïbe, vu que la négrophobie a une grande, est basée vraiment sur une grande partie sur la dévalorisation systématique des cultures, des langues, des traditions, des religions traditionnelles d'Afrique subsaharienne, mais systématique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose pour justifier le fait qu'on soit mis au banc de l'humanité sur notre non-apport à l'humanité, au savoir, à la culture, à ce qui fait qu'on fait partie de la communauté humaine, qui fait qu'on peut représenter quelque chose d'universel qui parle à tout le monde. Donc, on peut pas juste faire du panafricanisme qui s'occupe des questions économiques, politiques, sociales, etc. en disant, ah non, on va pas parler, on va pas faire de l'afrocentrisme, etc. Il faut le faire, mais il faut le faire en expliquant que c'est parce que il y a une exploitation une exploitation de l'Afrique, des Noirs, de la négrophobie, de tout ça, qui fait que ces cultures sont dévalorisées et que cette exploitation est du fait de l'Occident, de la suprématie blanche, mais aussi du fait des pays, d'autres pays des Sud qui ne sont pas à majorité noire, et que ce soit des pays d'Afrique du Nord, des pays d'Asie aussi, comme avec la Chine, que la négrophobie et le racisme le mieux partagé au monde. Et voilà, donc c'est pour ça que le panafricanisme, pour moi, est une réponse essentielle, surtout pour les militants, la communauté noire, et essentielle dans la lutte anti-négrophobie, parce qu'il n'y a pas un seul pays qui a majorité non-noire où les Noirs sont bienvenus, où les cultures noires, les cultures africaines noires sont bienvenues. Il n'y a pas un seul pays, là, où les Noirs qui y sont en minorité sont traités de manière décente. Et même des pays où les Noirs sont en majorité, ils ne sont pas vraiment traités de manière décente, comme en Guadeloupe, en Afrique du Sud, par exemple. Donc, c'est important. Donc, moi, je dis la réponse, le panafricanisme.
Noir, c'est une expérience. Voilà, c'est tout. Faut le vivre. Après, c'est pas quelque chose qu'on choisit, noir ou blanc, mais une fois qu'on est noir, en tout cas noir dans un monde de blanc, parce que la question se pose pas, les noirs entre noirs, ils se disent pas qu'ils sont noirs. Je veux dire, je suis noir parce que je vis en Europe. Quand je suis en Afrique ou en Martinique, je suis pas noir. Je suis du Marigot, de Macouba, de la commune du Robert, de Dakar. D'ailleurs, je suis pas noir. La question de ma couleur, elle se pose parce que je suis une minorité parmi des blancs. Bon, voilà. Donc, être noir, quand on est parmi des blancs, c'est une expérience qu'il faut vivre. Et ce qui est compliqué, c'est de raconter cette expérience. Parce qu'on la vit, mais quand on veut la raconter, c'est là qu'on est taxé soit de passionnel, d'hystérie, de mythomanie, de paranoïa. C'est-à-dire que moi, je suis des Antilles. C'est pas de la paranoïa, c'est un fait. Il y a eu 400 ans d'esclavage et je descends des Antilles. C'est pas de la paranoïa, c'est pas un truc que j'ai inventé. C'est pas du négationnisme, je réforme pas l'histoire, c'est un fait. Si je le dis, c'est de la paranoïa. Ou si je dis, bah voilà, ce que je peux ressentir aujourd'hui, ou les craintes, ou les angoisses que je peux avoir parce que faut pas croire quand t'es noir, t'es pas toujours rassuré quand t'es avec plein de blancs. Parce que les blancs ont peur des noirs, mais il faut savoir que les noirs aussi, ils ont peur des blancs. C'est-à-dire, des fois, je me retrouve tard le soir avec plein de blancs bourrés, qu'ont pas l'air de beaucoup m'aimer, je me sens pas bien. Je me dis, je vais passer par la fenêtre, ils vont me pendre. Enfin, voilà, c'est des angoisses. Là, je vous fais rire, mais c'est des angoisses qui existent. Voilà. Mais c'est des angoisses qui ne sont pas prises en compte. Puisque je suis tellement vu comme la personne qui peut représenter le danger qu'on ne soupçonne même pas que moi, je puisse avoir peur, que je puisse avoir des craintes. Voilà. Pourtant, je marche avec ma casque. Si je marche la nuit comme ça, avec ma cache-bûche baissée, c'est à peu près moi l'ennemi. Voilà. Et pourtant, moi, je suis en stress, moi, j'ai peur. Je suis seul, dans la rue, dans des endroits que je ne connais pas, entouré de blancs dont je ne sais pas ce qu'ils votent, qu'ils aiment, ce qu'ils pensent. Voilà. Je ne suis pas bien. Je me pose la question de comment on me voit. Quand on est noir, quand on est minoritaire dans un milieu de blanc, on se pose toujours cette question. Et intervient aussi une question que les gens... qu'un noir se pose, ou qu'un arabe se pose, qu'un asiatique se pose, que quelqu'un qui vit en minorité dans un monde de blancs se pose, et que des blancs n'ont pas à se poser. Et quand on leur dit qu'on se pose ces questions-là, c'est toujours de la paranoïa. Oui, parfois, quand j'ai des interactions avec des gens qui sont blancs, je me pose toujours la question de comment il me voit, il est raciste ou pas ? Ou si j'ai un conflit avec lui, le conflit, il est humain ou il est raciste ? Ou c'est parce que je suis noir qu'on a ce conflit ? Je ne sais pas, je ne pourrai jamais le prouver. Mais cette question, elle est toujours en suspens. Et c'est ça. Ça, c'est des petites angoisses comme ça. C'est ça. Et je suis obligé, moi, de prendre sur moi, me dire, mais non, t'es en train d'halluciner. Mais quand il s'avère que c'est réellement ça, que dans ce conflit intervient la race, je peux pas le prouver. Et ça, c'est un truc que moi, je vais devoir encaisser, moi, et garder pour moi.
Merci d'avoir écouté la deuxième émission de What the F Podcast. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus long que le premier, mais c'était des questions importantes. Le... prochain épisode sera enregistré depuis Haïti, donc posez des questions qui ont lien de près ou de loin avec Haïti, mais bon, on se connaît déjà, vous savez que on va finir par Haïti, par y arriver, tous les chemins mènent à Haïti, donc on va finir par y arriver. Je vais vous quitter avec un super son de Camille Aouri, un duo génial dont l'une des membres est une sista de Moissy, la flamboyante Cine, avec le morceau Blue Forest. Mais avant ça, je vais vous lire un extrait de La Fraternité, qui est un journal hebdomadaire fondé par le grand, l'immense Benito Sylvain, haïtien, panafricain, précurseur du panafricanisme, qui a fondé ce journal en 1890 à Paris, où il était représentant diplomatique pour Haïti. Et le titre de ce journal, La Fraternité, est merveilleux, mais ce qui est d'autant plus merveilleux, c'est le sous-titre de ce journal, enfin le slogan de ce journal, Organe des intérêts d'Haïti et de la race noire. Donc vous vous souviendrez de ça lorsqu'on vous dira que c'est en 2018 que les racialistes parlent de race et de raciser, racialisation, que en 1890 il y avait des Haïtiens et des Haïtiennes à Paris qui étaient déjà dans le dérangement. Merci beaucoup et à dans 4 semaines. Nous voulons prendre en main la cause de la race noire tout entière. Nous voulons qu'au moment où les nobles et généreux efforts du cardinal Lavigerie vont revêtir une forme pratique que déterminera le prochain congrès anti-esclavagiste, Haïti, le premier État noir indépendant, soit en mesure d'offrir sa part de concours à l'œuvre entreprise pour améliorer le sort de nos malheureux congénères d'Afrique. Persuadé qu'un long avenir exige un long passé, et que plus une œuvre doit être solide et durable, plus la préparation en est pénible et laborieuse, nous ne nous berçons point du chimérique espoir de restaurer immédiatement chez nous un ordre social si profondément troublé. Notre vie tout entière est consacrée à la cause que nous entreprenons de défendre. Certes, il ne nous sera pas donné d'en voir le triomphe, mais qu'importe. Le fruit de nos travaux sera recueilli par d'autres. Et peut-être qu'un jour, en voyant Haïti puissante et prospère, en voyant la race noire à jamais réhabilitée, on se souviendra de nos efforts pour rendre hommage, non pas à nous-mêmes, mais aux principes que nous aurons servis. Benito Sylvain, La Fraternité, Organe des intérêts d'Haïti et de la race noire, Paris, 27 août 1890.
I don't usually long for the past, but it was so good, so good. I don't think these memories are gonna last, 'cause you left so soon, so soon. I'm afraid my mind might erase the last hours of our glue, our glue. I'm afraid I might be breathing too fast, hoping to heal you, heal you. May this air fill your lungs, bring you back to me, back to me. Chase them very far. Under the moon, I will see your face replace the stars.
See your face in the moon.
Yeah. Illuminate my dark thoughts and chase them very far.
You chase them for you, won't you?
Skies of confirmation. Resonance and patient. War swept the nation. Join the conversation. Skies with confirmation. Resonance and patient. War swept the nation. Join the conversation.